Dans une retraite, il est bon de faire un peu un plan d'ensemble de la religion. Parce que souvent, à travers les sermons, on vous donne des notions particulières, mais sans vous montrer comment elles s'harmonisent entre elles. Alors souvent, on a des tas de connaissances, mais on ne voit pas comment ça s'unifie, comment ça se... Oui, c'est comme si vous avez un marchand de matériaux qui vient avec un semi-remorque, et puis il accule dans la cour, oui, les fenêtres, les portes, les moellons, le ciment, etc. Hein, tout est, ça vous fait un tas immense. Alors pour faire une maison, vous n'avez pas comment par où commencer, quoi. Vous savez pas comment utiliser ces matériaux. Vous avez tout, mais ensuite, ben, pour mettre en ordre, pour mettre en place, etc. Et c'est ça souvent la vie spirituelle, un peu difficile, la vie chrétienne, parce qu'on voit pas. Oui, entre notre vie professionnelle, notre vie familiale, notre vie chrétienne, comment ça s'harmonise? Alors, souvent, la religion, c'est quelque chose que je plaque à ma vie privée, ma vie familiale, etc. Et alors, je sens que ça ne s'unifie pas, qu'il y a des oppositions, il y a des... Donc, dans une retraite, au contraire, il faut faire cette harmonie pour voir comment ça s'unifie, comment... Ouais. Donc vous voyez bien que dans notre corps, les membres sont très différents, mais c'est très bien unifié, c'est très bien harmonisé, tout est bien en ordre. Et la maladie, souvent, c'est justement quand il y a un membre qui est en décalage par rapport aux autres, il y a un élément qui n'est plus à sa place, alors tout est dans le malaise. Donc je pense que c'est important, vous voyez, dans une retraite, non seulement, comme je vous l'ai dit, vous voyez, de ressusciter la grâce qui est en nous, ouais, il y a toujours la routine, etc. Je pense que c'est un premier objectif dans une retraite, mais aussi de voir l'harmonie, l'ordre, le plan d'ensemble, ouais, et comment ça, tout ça s'unifie. Ouais. Alors, aujourd'hui, je dois vous parler des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Ouais. Donc, je vous ai parlé des vertus théologales, ouais, maintenant, les dons du Saint-Esprit. Alors, pour cela... je voudrais faire une première allusion, si vous voulez, à notre nature humaine. Ici-bas, oui, on peut dire que tous les êtres, oui, ils apparaissent dans un état, si vous voulez, élémentaire, et tous les êtres doivent croître, se développer pour arriver à une certaine maturité. Et ensuite, jusqu'à la mort, ça décline, etc. Vous voyez, il y a un cycle qu'on retrouve à peu près partout. On démarre dans des conditions vraiment un petit peu élémentaires. Vous voyez, tout est, vous voyez, c'est la plante. La plante, c'est d'abord un germe. Et puis le germe évolue, etc. Ça prend une dimension. Eh bien, notre nature, ça, il faut vraiment tenir compte. Vous voyez que chez les anges, c'est complètement différent. Les anges, ils sont créés dans une sorte de plénitude, il n'y a rien à rajouter. Dès qu'ils sont créés, ils sont en pleine possession de leurs moyens. Chez un ange, il n'y a pas d'évolution, ouais, il n'y a pas cette progression, ouais, il n'y a pas cet état de naissance, d'enfance, d'adolescence, d'âge adulte, de vieillesse, etc. Ça, c'est propre. Et ça, il faut vraiment tenir compte. C'est très important dans notre vie chrétienne. Il faut vraiment, vous voyez, s'adapter justement à cette... à ce cycle. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Quelle est la différence par rapport à certains animaux? Vous voyez qu'il y a certains animaux qui, dès leur naissance, sont déjà autonomes. C'est-à-dire les parents ne vont pas du tout intervenir pour initier leurs petits à la vie. Par exemple, les ovipares. Hein, les ovipares, ils pondent des œufs. Et ils se barrent. Et les petits, ils naissent, ben voilà, il va falloir qu'ils se débrouillent, quoi. Ouais, rien. Personne ne va leur dire comment ça se passe. Ils vont eux-mêmes se débrouiller. Voilà. Alors, ils découvrent tout par eux-mêmes, ils se débrouillent, etc. Et ça marche. C'est magnifique. Ouais. Il y a souvent l'entre-deux. Par exemple, un petit veau qui vient de naître, le jour même de sa naissance, il est sur les quatre pattes et il va têter sa mère, il n'y a pas de problème. Ouais. Ben chez nous, ça ne marche pas comme ça. Hein. Hein, il faut au moins 12 mois pour que le gosse commence à peu près à se tenir sur un. Hein. Et il est complètement dépendant. Et ça, il faut en tenir compte. faut en tenir compte. Vous voyez, l'être humain est un être qui est appelé à une vocation infiniment plus parfaite que l'animal, mais n'empêche que l'être humain naît dans des conditions inférieures à celles de l'animal, d'une certaine manière. Alors, je voudrais vous montrer ça, vous voyez, au départ dans la maison. Alors, je parle sous votre contrôle, parce que je parle à des mères de famille. Alors, parler d'un bébé, là, je suis mal placé, hein, parce que là, je risque de me planter. Hein. Moi, j'ai été éducateur, mais pas avec des enfants de primaire. Moi, je suis comme avec une poule avec un couteau, à peu près. Je suis après aussi habile que ça, hein, avec un enfant de primaire. Alors, je suis archi nul. Là où je me sens bien, vous voyez, c'est avec les enfants à l'âge bête. Là, alors, je suis en pleine forme. Parce que j'ai été très turbulent. Alors, les gars, je les vois venir. Je dis, vous n'allez pas m'en apprendre. Hein. Alors, j'aime bien ça. Vous voyez, dans une classe, c'est vraiment, voilà, ils cherchent à m'embêter. Et je me leur rends bien. Et c'est un jeu, quoi, finalement. Là, je me sens parfaitement à l'aise avec ces gars-là, quoi. Ouais. Mais avec un bébé, alors, nul. Je sais pas comment vous faites, moi. Parce que, justement, un bébé en naissant, excusez-moi, mais c'est quand même bruyant. C'est puant. Et ça coûte très cher. Je sais pas comment vous faites pour aimer ça, hein. Mais non, évidemment, je parle d'une manière ironique. Mais en gros, c'est quand même ça, il y a une affaire. Hein. Là, vous voyez, l'état de naissance, c'est vraiment incroyable. L'état dans lequel un enfant apparaît au monde. Il faut vraiment l'amour d'une mère. Ouais, bon. Et heureusement qu'on a eu des gens comme vous, hein. Oh, moi, je serais gros porc, quoi. Ah, c'est sûr. Vous voyez que, à la naissance, on a des tendances très défavorables. On a un état initial, mais déplorable. On a des fragilités extraordinaires. Alors, bon, ça, c'est mon tableau personnel. Vous pouvez en rajouter ou le transformer. Mais c'est quand même ça. Vous voyez, l'enfant, quand il naît, il est dans un état d'inconscience incroyable, c'est-à-dire, il ignore tout, il ne sait absolument rien. Ouais. Il est crédule comme que c'est pas possible, on peut tout lui faire gober, hein. Il peut tout, d'une naïveté épouvantable, il ne contrôle rien, etc. Voilà, pour lui, tout est... Ouais. Et puis d'une incapacité radicale, il ne peut rien faire, même pas manger, quoi, même pas... Non, il ne peut rien faire, même pas aller aux toilettes, non, rien. Bon, voilà, c'est... Alors j'en rajoute, hein, et je crois que la liste n'est pas exhaustive, hein, vous pouvez... La passivité d'un enfant, ouais, il est complètement dépendant. Un enfant, vous le laissez, mais il meurt de faim, etc., il n'y a rien à faire. Il ne peut rien faire, vous voyez, sans que ses parents soient là. Il est d'une faiblesse extrême, l'enfant, vous voyez, il ne sait pas se défendre, il est d'une vulnérabilité absolue. Vous voyez, quelqu'un qui s'acharne sur un enfant, il va rencontrer aucune résistance. L'enfant ne va pas résister, il va se laisser faire. La passivité. L'individualisme. L'enfant, c'est sa mère. Et quand il a ses frères... Moi, j'ai par exemple une petite nièce, elle était l'aînée. Quand est apparu son frère, ça a fait une sorte de traumatisme. Elle avait un an et demi. Elle a perdu ses cheveux. Elle ne les a plus jamais retrouvés. Plus jamais retrouvés. Elle est chauve. J'ai plus de cheveux qu'elle. Alors, un enfant, c'est très égocentrique. Hein? Il veut tout accaparer, l'enfant, etc. Et il est brutal, il tape les autres, etc. Vous voyez, donc l'individualisme. Et ensuite, un certain sensualisme. Mais c'est pas péjoratif, c'est pas que l'enfant est impur, etc. Mais l'enfant, vous voyez, il a une certaine impulsivité, une certaine gourmandise, et puis une sensiblerie. L'enfant, il lui faut des bisous, des caresses, etc. Et on n'en finit plus, quoi. Donc, il y a un certain... Alors, c'est quand même affligeant, quoi. Et l'enfant, c'est ça. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, levez le doigt, mais je pense pas. C'est quand même une évidence, quoi. Alors, l'éducation, bah, c'est de passer ça à là. Ouais. Et comment on va passer de ça à là? Ouais. Eh bien, en permettant à l'enfant d'acquérir des vertus. Donc l'enfant, vous voyez, tout ça, ça va se transformer. Attention, vous voyez, dans tout ce que je viens de vous dire, il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de pécamineux. Donc ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas affligeant, C'est simplement que le bon Dieu a voulu comme ça. Mais vous voyez que tout ça, ça se transforme très vite. Vous voyez, et tout ça, c'est tendance, c'est des tendances. C'est pas des péchés, c'est pas des actes mauvais. C'est des inclinations défavorables seulement. Vous voyez, c'est des fragilités. Mais ça n'a rien de monstrueux. C'est pas parce que l'enfant a ses fragilités qu'il est un monstre. Mais le bon Dieu l'a voulu comme ça. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Ouais. Parce que ça, ça va intervenir dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Si on ne tient pas compte de ça, mais on va se planter. Alors, vous voyez que, par exemple, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle vous dit que depuis l'âge de 3 ans, elle n'a jamais commis aucun péché. Mais elle vous dit qu'en même temps, si elle n'avait pas eu de bons éducateurs, elle avait des tendances, vous voyez, des tendances initiales, qui auraient pu être fatales. Alors, j'aime bien, là aussi, tout de suite, je prends mon carnet, ça m'intéresse. Avec des trucs foireux, ben voilà, je me reconnais, quoi. Alors, quelles sont les trois tendances foireuses, chez Sainte Thérèse? Eh bien, elle dit d'abord qu'elle était très, très affectueuse, trop affectueuse. Il y avait une sorte de sensiblerie chez elle. Ouais. Ensuite, elle dit qu'elle était entêtée. Elle piquait des colères, etc. Pas possible, elle était obligée de l'enfermer, etc. Deuxième tendance, l'entêtement. Donc, un petit peu, si vous voulez, de sensiblerie, d'entêtement. Et la troisième chose, c'est la vanité. Ouais, elle raconte que, voilà, elle était toute petite, vraiment un peu petit bébé, quoi. Hein, et sa maman lui avait mis une robe sans manches. Ouais. Et elle se trouvait très bien, comme ça, etc. Et sa maman lui couvre lui met des trucs jusqu'au... Du non, franchement, ça fait laid, quoi. Elle préférait sans manche, ça fait plus. Hein. Voilà. Donc déjà, oui, elle était très jeune, elle avait une petite vanité. Voilà. Bah oui, oui. La plus grande sainte des temps modernes, elle est bien là-dedans, faut bien la caser là-dedans. Autrement, non, ça m'intéresse pas, vous comprenez, ici. Non, non, c'est des gens à part, c'est pas des êtres humains, quoi, c'est des anges qui sont, voilà, qui ont mis Alors, ça n'a plus aucun intérêt pour moi. Et au contraire, qu'elle dise clairement, vous voyez, qu'elle a vraiment ces tendances défavorables, ça, ça m'intéresse. Parce que voilà, on se reconnaît, quoi. Ouais. Et elle dit, justement, qu'elle a eu la chance... Bon, malheureusement, d'avoir des sœurs, parce qu'elle a perdu sa mère, malheureusement, très jeune, mais elle a eu des sœurs, et très bonnes éducatrices. Oui. Donc, comment on va passer de là à là, oui, par l'effort? Ça va coûter, ça donne de la peine. Vous voyez, un bon éducateur, c'est celui qui est exigeant et qui obtient de l'enfant un effort, etc. Il faut de la répétition, je vous l'ai déjà dit. Vous voyez, un enfant ne va pas passer de là à là, comme ça du jour au lendemain, ça ne se fait pas subitement, ça ne se fait pas immédiatement. C'est des dizaines, des centaines et des milliers de fois qu'il faudra lui poser certains actes pour qu'enfin il acquiert ses vertus. Ouais. Donc de l'effort, de la répétition. Mais il y a aussi des prédispositions, c'est-à-dire, vous voyez, que des parents qui sont vertueux, qui ont des habitudes de vie, des règles de vie, ben ça se retrouve chez l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant, vous voyez, qui est dans une famille avec des parents vraiment des honnêtes gens, des gens droits, etc., vous voyez, qui ont des règles de vie, l'enfant va passer beaucoup plus rapidement de là à là. Par contre, un enfant, vous voyez, qui naît avec ses handicaps et qui a des parents alcooliques, des parents qui font n'importe quoi, etc., est-ce qu'il va réussir de passer de là à là? C'est pas impossible, mais ça sera beaucoup plus difficile. C'est très compromis. Parce qu'il n'aura pas, justement, il n'aura pas des modèles, des exemples et des gens qui l'aident. Ouais, vous voyez, vous avez, par exemple, c'est très souvent, vous voyez, que vous avez des gens, quand ils sont artistes, eh bien, dans leurs enfants, on va retrouver les mêmes dons. Mais ce don, vous voyez, pour la musique, je ne sais pas, moi, pour la sculpture, pour la peinture, etc., ce don initial, il va falloir, vous voyez, le faire sortir. Ouais, faut que l'enfant, même s'il a des parents qui sont chefs d'orchestre, etc., musiciens de grand renom, des artistes réputés, l'enfant, il doit démarrer de zéro. Il va apprendre. Il faut pas croire que parce que j'ai des parents qui sont au sommet, au top de leur art, moi en naissant tout de suite sur un piano, ça y est, je vais pouvoir. Il va falloir commencer par le commencement. Mais ça va être beaucoup plus facile parce que mes parents m'ont transmis ce don. Ouais, donc ça va être beaucoup plus facile, bien sûr. Alors ça, ça vaut, c'est important. Alors, quelles sont, c'est ce qu'on appelle les vertus morales acquises, eh bien, c'est la prudence, la force, la justice et la tempérance. Voilà. Alors, vous voyez, par rapport à cette inconscience, cette ignorance, cette crédulité, etc., l'enfant, par l'éducation, on va lui apprendre la prudence, c'est-à-dire, vous voyez, par l'instruction, par la formation, on va lui donner des compétences, on va lui donner de l'expérience, on va lui donner du jugement, du discernement. Et peu à peu, cet enfant ne va plus avoir de crédulité, il va se méfier. Vous voyez, il va vérifier ce qu'on lui dit. Vous voyez, il va avoir ce jugement, ce discernement. Il va avoir une expérience. Vous voyez, qui fait que il a plus cette incapacité, il la perd. Il devient vraiment compétent. Vous voyez, il a des qualifications, etc. Il devient prudent. Il est capable. Qu'est-ce que c'est que la prudence? Vous voyez, c'est celui qui est capable d'ordonner les moyens à un but. La prudence, c'est quelqu'un qui se donne des objectifs et qui sait choisir les bons moyens, les bons instruments pour atteindre l'objectif. Donc il faut avoir justement, vous voyez, une formation, il faut avoir acquis de l'expérience, il faut avoir du jugement et du discernement. Et on y arrive très bien, très très bien. Ouais. Et un enfant, vous voyez qu'un enfant, c'est pas rare, oui, dans une famille nombreuse, qu'une petite fille qui est l'aînée d'une famille, à 8-10 ans, ben, les parents quelquefois peuvent lui confier la garde, les parents qui sont invités ou qui ont une réunion, etc. Il laisse la petite fille de 8-10 ans oui, s'occuper de ses frères et sœurs et ça ne moufte pas, hein. Les petits frères et sœurs, bon, il faut que les parents arrivent assez vite quand même, hein, parce qu'à partir d'un moment, ça devient compliqué. Mais elle est capable de tenir le truc, hein, parce que justement, elle est passée de là en 8-10 ans. Ouais, l'éducation qui a été bien, bien efficace, etc., c'est merveilleux, des résultats exceptionnels, on a des enfants surprenants. Ouais, ensuite, la passivité, ouais, par l'éducation, cette tendance défavorable, elle est corrigée. Ouais, et ça devient, ouais, qu'est-ce que c'est que la force? C'est le courage devant les obstacles. C'est-à-dire, quand je me donne un objectif et que j'ai les moyens, ça ne va pas aller tout seul, c'est pas l'autoroute avec le régulateur de vitesse. Hein. Non, ça va être un parcours justement où il va falloir éviter certains obstacles, bousculer les autres, etc. Il faut de la force et du courage, donc c'est fini. L'enfant, il n'a plus le droit, il faut le sortir de la dépendance, de la faiblesse, de la vulnérabilité. Il faut l'en sortir. Et comment? Eh bien, en lui donnant le sens de la décision, de prendre des initiatives, il faut que l'enfant devienne autonome. Il faut lui confier des petites responsabilités. Il faut lui donner l'esprit de conquête. Il faut lui donner des ambitions. Et puis, il faut lui apprendre à se défendre. Hein? Bon! Allez! Hein, tu dégages! Voilà! Ensuite, l'individualisme. Cet enfant qui est né égocentrique, etc. Eh bien, il faut lui donner le sens de la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? La justice, c'est respecter le bien d'autrui. Et c'est avoir une vie sociale, être capable de vivre avec les autres. Vous voyez, le petit enfant qui vient de naître, ouais, il faut qu'il accepte qu'il a ses frères et sœurs. Et qu'il ne peut pas, comme ça, penser que sa mère va uniquement s'occuper de lui, exclusivement. Il faut qu'il sache partager. Et ça s'appelle la justice. Alors comment? Eh bien, on va apprendre l'enfant, vous voyez, on est toujours dans les vertus acquises, on va lui apprendre la probité, d'être honnête, ouais, de ne pas prendre les affaires des autres, de la droiture, de ne pas mentir. Hein, de ne pas. Ensuite, la sociabilité. On va lui apprendre le dévouement vis-à-vis des autres. De ne pas chercher que ses intérêts, mais de se préoccuper de ceux des autres. Ensuite, la délicatesse vis-à-vis des autres. On ne fait pas de bruit. Quand quelqu'un est malade, etc. Quand papa est arrivé à 1h du matin, on ne fait pas de bruit le matin, justement, pour laisser papa dormir un petit peu et faire grasse matinée. La tolérance. Ouais. Donc, l'enfant apprend le sens de la justice, c'est le vivre avec autrui. Et puis enfin, la tempérance. Cet enfant qui a une certaine tendance, vous voyez, au sensualisme, à chercher. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que la tempérance? Oui. C'est la mesure dans les plaisirs, oui, dans les jouissances. La mesure, ça ne veut pas dire qu'on va priver l'enfant de plaisir. La mesure, et puis dans les biens personnels. On va donner à l'enfant des habits qui sont à lui, voilà, des crayons de couleur qui sont à lui, etc. Il faut gérer ça. Oui, il faut. Alors comment? Eh bien, on va apprendre à l'enfant une certaine retenue, une certaine maîtrise de soi. Vous voyez, la sobriété, quand on mange, on ne se gave pas. Il faut savoir s'arrêter avant que ça fasse mal, hein, qu'on ait mal au ventre d'avoir trop mangé. Hein. Ensuite, on va lui donner, par rapport à ses biens personnels, on va lui donner le sens de l'économie, de l'épargne. Et puis, par rapport à cette sensiblerie, cette tendresse un peu excessive, eh bien, on va lui apprendre le sens de la pudeur. Voilà, quand on se déshabille, quand on se lave, etc. Ouais, on va pas se coller des images comme une brave patiente, ouais, qui était tellement pieuse quand j'allais chez le médecin. Elle se mettait des images du Sacré-Cœur, la Sainte Vierge, etc. Donc, j'ai mal du côté de Saint-Antoine, là. Là, c'est la camisole de force. Elle est tombée sauf. Donc, la pudeur, c'est pas la crétinerie. Voilà. Et ensuite, voilà, donc la pudeur, la dignité. On apprend à l'enfant la dignité, le respect, justement, le sens de l'honneur. Voilà, c'est très important. Et on y arrive très vite. Et moi, je suis toujours émerveillé, comment ça se passe très vite dans nos bonnes familles chrétiennes. Je vous assure que nous qui sommes dans les pensions, on prend souvent des grandes leçons. Et on a souvent scrupules. Vous voyez que ce que les parents ont si bien fait, vous voyez, en si peu de temps, est-ce que nous, on le conserve? Le développer, c'est l'idéal, mais est-ce qu'au moins on le conserve dans nos écoles? C'est pas toujours assuré. Je vous assure que ça nous donne des problèmes de conscience graves. Parce que justement, on voit que les familles chrétiennes qui tiennent la route et qui sont vraiment sérieuses, elles arrivent à des exploits, et en très peu de temps, je vous assure. Ouais. Alors, eh bien voilà, les dons du Saint-Esprit, ben ils arrivent là. Ouais. Parce que vous voyez, je vous ai dit que l'éducation de passer de là à là, ça demande des efforts, c'est pénible, ça demande des répétitions. Alors notre religion nous apporte des secours. Qu'est-ce que c'est que les dons du Saint-Esprit? Oui. Eh bien, quelqu'un qui a fait des efforts, oui, qui s'est vraiment donné de la peine, etc., eh bien, le Saint-Esprit va lui donner de l'aisance, de la facilité. Cet effort, d'une certaine manière, va disparaître. Ça va devenir facile. Ouais, facile, vous voyez, d'avoir du jugement, du discernement. Ça va devenir facile, vous voyez, de savoir prendre des responsabilités, de se défendre quand je suis agressé, etc. Ouais. Donc, ça donne de l'aisance, vous voyez, un certain goût même, non seulement une certaine facilité, mais un certain goût, vous voyez, on a une certaine jouissance à pratiquer les vertus. Ouais. Donc, l'effort disparaît d'une certaine manière, ça ne coûte plus, au contraire, on aime faire ça. Ouais, ça, c'est les dons du Saint-Esprit. Et en plus, ça me rend beaucoup plus efficace, je vais le pratiquer. Non seulement j'ai plus de facilité, mais ce que je vais faire va produire des résultats bien meilleurs. Donc, j'ai moins de peine, j'ai du plaisir, je suis plus efficace, et en plus, les dons du Saint-Esprit donnent une valeur surnaturelle. Ce que je pratique là, je suis en train de préparer mon salut, d'une manière très efficace. Alors, vous voyez, la prudence, vous voyez, va être perfectionnée par le don de conseil, c'est-à-dire, vous voyez, que l'enfant qui a été bien éduqué, qui est bien instruit, qui est bien formé. En plus, le Saint-Esprit va lui donner des illuminations, des lumières supplémentaires. Il va lui donner des ouvertures. Il va lui montrer les bonnes orientations. Il va lui faciliter les choses. Ouais. Quelquefois, même en étant très prudent, on peut avoir des échecs qui sont pas du tout, dont on n'est pas responsable. Mais il y a des échecs, on est quelquefois déçu. Oui. Eh bien, dans ce cas-là, Saint-Esprit va lui apporter la consolation, le réconfort, il ne va pas se laisser abattre, vous voyez, dans les échecs. Et en plus, quand ça va bien, le Saint-Esprit va lui donner en plus de l'élan, de l'enthousiasme. L'enfant va être, voilà, partant, etc., pour faire des belles choses. Voilà, voilà le don de conseil, vous voyez, qui va améliorer la vertu de prudence, qui va la perfectionner, qui va la rendre encore plus efficace, etc. Le don de force, vous voyez, ça a le même nom que la vertu. Mais, vous voyez, cette vertu de force, vous voyez, qui m'a demandé de la peine, un enfant pour devenir autonome, vous voyez, pour avoir cet esprit de responsabilité, ben voilà, il est obligé de prendre sur lui, etc. Le don de force va donner à l'enfant en plus la persévérance dans l'effort, la constance dans l'effort. Il ne se laisse pas abattre, même si on le critique, même si on lui dit des reproches qui sont un peu humiliants, etc. Et il tient la route. Ouais. Il a de la vaillance, il a de la magnanimité. C'est quelqu'un qui va même faire plus que son devoir, quelquefois faire des choses qu'on ne lui demande pas, par générosité. Et puis il est capable d'héroïsme. Maria Goretti, cette petite fille de, voilà, de 13-14 ans, etc. Hein, elle est assaillie par un sauvage, etc. Elle va lui résister jusqu'au martyre. Et elle est sainte. 12-13 ans. Et le petit, les enfants de Fatima sont devenus des héros. Ouais. Très bien éduqués dans leur famille. Mais en plus, ouais, le Saint-Esprit leur a donné une dimension extraordinaire. Ce sont des vrais héros, bien sûr. La piété. Alors attention, ce n'est pas la piété. La piété, vous voyez, va me donner par rapport à ma vie sociale, non seulement je vais être un homme droit, sociable, dévoué, délicat, tolérant, mais je vais y mettre beaucoup plus d'onction. Ouais, le don de piété va me donner de la cordialité. Quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est cordial, il est bienveillant, il est indulgent. Alors là, on change vraiment de gamme. Ouais. On change, c'est vraiment la perfection. Ouais, dans mes rapports avec autrui, ouais, donc voilà, un supérieur, vous voyez, qui non seulement rend... Vous voyez, la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc vous avez des gens, des supérieurs, etc., qui sont vraiment consciencieux, etc. Mais ils sont aussi frocs du marbre, quoi, parce qu'ils ont un cœur, ces gars-là. Ouais. Eh bien, le don de piété corrige, parce que vous avez des gens très honnêtes, très... Mais alors, vraiment, ils sont un peu de pierre, quoi. C'est pas possible d'avoir un petit peu de conversation chaleureuse avec eux. Ouais. Alors, la piété ajoute, vous voyez, à cet esprit de probité, etc., eh bien, cette cordialité, cette bonté, cette bienveillance, c'est vraiment d'être en compagnie de gens comme ça, c'est vraiment le vrai bonheur, hein. Et puis la crainte, c'est-à-dire, vous voyez, la tempérance, vous voyez, par la maîtrise de soi, etc., par la pudeur, corrige, réforme cette tendance, vous voyez, à la sensualité. La tempérance va ajouter beaucoup plus. C'est-à-dire, vous voyez, que l'enfant qui a le don de tempérance, vous voyez, non, il n'a pas tellement à faire effort pour se contrôler, pour se maîtriser. Il sent une sorte de désintéressement, d'indifférence. Il sent une sorte de... Voilà. Bien sûr, il méprise pas les plaisirs, etc. Mais il ne sent pas non plus une sorte d'attrait irrésistible pour lequel il est obligé de lutter. Vous voyez, un alcoolique, vous voyez, quand il passe une devanture, hein, où il y a de la chartreuse, etc., il se sent, vous voyez, attiré, et il craque, quoi. L'enfant qui est bien éduqué, il n'a même pas de tentation, quoi. Ouais, bon, c'est beau, il voit un beau moine là, sur la bouteille, etc. Il trouve ça marrant, un moine, mais il ne va pas rentrer dedans pour en cachette. Hein, ça ne lui viendrait même pas l'idée. Ouais, le don de crainte, ouais, c'est justement dire non, moi, je garde ma réputation, je garde mon honneur, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi et d'aller me... Ouais. Donc une sorte... vous savez que nos premiers parents, dans le paradis terrestre, ils n'avaient pas la concupiscence, c'est-à-dire ils n'avaient même pas l'attrait du mal. Vous voyez, ils ne se sentaient pas attirés à désirer le bien d'autrui, ils n'avaient pas ce désir de la popularité de se mettre en avant, ils n'avaient pas le désir, ils étaient intègres, ils avaient cette sorte de maîtrise d'eux-mêmes, c'est ça qu'on appelle l'intégrité. Eh bien, on arrive, vous voyez, à travers la bonne éducation et le don de crainte, avoir une sorte, vous voyez, d'honnêteté gravée en soi. On n'a même plus la tentation. C'est magnifique. Ouais. On le voit, vous voyez, chez les saints, etc., il n'y a même plus de tentation d'abuser de l'alcool, de faire n'importe quoi, de voler le bien du prochain, etc. Ils n'ont même plus à exercer cet effort de la maîtrise de soi, de la sobriété, etc. C'est d'eux-mêmes. Ils ont une telle, vous voyez, hygiène de vie, vous voyez, une telle santé spirituelle. Ils ne sont même pas tentés par le mal. Plus tentés par le mal. Bon, il faut toujours... Il y a le péché originel qui nous reste toujours... Mais c'est vraiment merveilleux. Ouais, nous, en confession, on confesse des tas de gens, vous voyez, qui vous disent « Moi, je n'ai jamais eu la tentation de tromper mon conjoint. » Ça ne m'est même pas venu à l'idée. On s'aime bien, on s'entend bien, on a des enfants très aimables. Ça ne m'est pas venu à l'idée. Quand je vois une femme, voilà, ça, j'ai pas tout d'un coup, et je suis obligé de prendre mon chapelet, et pour éviter que... on arrive à une... Je suis obligé de me maîtriser, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme application spirituelle par rapport à ça? Eh bien, par rapport à ça, on peut se dire que, quelqu'un qui n'a pas réussi, soit par manque d'éducation, parce que ses parents n'ont pas fait leur boulot, mais ça, de passer de là à là, il n'y a pas que les éducateurs, moi aussi, je dois travailler à faire l'effort des répétitions, etc., pour... les parents, ils mettent les jalons, ils mettent les prédispositions, etc. Mais ensuite, toute ma vie, il va falloir que j'exerce ces vertus, des vertus acquises que je dois entretenir. Et vous pouvez avoir des gens qui ont été très bien éduqués, dont les parents, ont très bien su faire le passage, mais qui ensuite n'ont pas su entretenir cette qualité. Et des gens qui, peu à peu... perdre le jugement, perdre des compétences, perdre l'esprit de décision, perdre l'esprit de responsabilité, etc. Le péché, c'est quoi le péché? Eh bien, la plupart du temps, le péché, c'est retomber dans une sorte d'enfantillage et de puérilité. Le péché, souvent, fondamentalement, c'est ne pas être raisonnable. Le péché est une folie. Et je pense tous, on en a fait l'expérience. Quand on commet un péché, on sent que c'est vraiment... On cède à des puérilités, on devient un gosse capricieux, un gosse fantaisiste, qui ne sait pas se conduire. Des fois, on commet certains péchés, une enfant de 8 ans et de 10 ans nous dit « Mais tu fais ça, mais c'est pas croyable. » T'es père de famille, tu es prêt et tu fais ça. Un enfant peut nous donner la leçon, je vous assure. On retombe dans l'enfance. Alors, il y en a qui n'en sortent jamais de l'enfance. C'est ça. Des gens qui ne savent pas, des gens qui sont d'une naïveté incroyable, des gens qui sont d'une vulnérabilité devant n'importe quelle tentation, etc. Des gens qui sont d'un égocentrisme pas possible, et puis qui sont gourmands, qui sont sensuels, carrément, c'est des gens qui n'ont pas fait le passage. Ou qui, ayant fait le passage, ne sachant pas entretenir ça, sont retombés. Le péché, c'est ça. Je redeviens un gosse. Je retombe dans les puérilités. Je ne sais plus me maîtriser. Je ne sais plus avoir cette tolérance. Je deviens quelqu'un de hargneux, etc. Je deviens quelqu'un influençable. Je ne sais plus me défendre. Je manque de discernement, je me laisse avoir, parce que j'ai pas. C'est des vertus acquises, mais qu'il faut constamment entretenir. Alors, le péché, c'est ça. Donc, vous savez que pour être prêtre ou pour être religieux ou religieuse, il y a trois conditions de la vocation. Trois vocations. C'est d'abord l'intention droite. Je veux me faire prêtre, vraiment pour le salut des âmes et la gloire de Dieu. Une intention qui n'est pas droite, c'est celui qui se dit « je vais être prêtre ou religieux eh bien, pour l'estime des autres ». Je vois que dans nos milieux, quand débarque une soutane, etc., c'est tout juste si ma mère n'est pas à genoux, quoi. Alors, c'est vrai que, alors moi, j'ai envie que c'est vrai que les gens me baissent la main, etc. C'est sympathique. Donc ça, c'est pas intention droite, on dégage. Deuxième intention qui ne sait pas droite. Moi, je sens que le monde est pervers, etc. Donc si je veux me sauver, il faut vraiment que j'aille dans un monastère. Et puis je risque d'être au chômage parce que je ne sais pas faire grand-chose. Et je sais qu'au monastère, il y aura toujours le gîte et le couvert. On y va. Est-ce que je peux rentrer? Dégage. T'as pas la vocation. Attention. Donc voilà, la première chose, c'est intention droite. Deuxième chose, c'est les capacités fondamentales. Donc par rapport à capacité fondamentale, c'est avoir du bon sens, pas forcément de la science, mais un bon jugement. Et puis un certain équilibre nerveux. Un prêtre qui ne supporte pas la compagnie, qui a des comportements agressifs, etc. Non, il n'est pas fait pour. Donc c'est la deuxième condition, avoir des capacités. Mais la troisième condition, c'est des habitudes de vie. les habitudes de vie. C'est-à-dire, vous vraiment, celui qui veut être prêtre, qui veut être religieux, etc., il faut vraiment que ce soit quelqu'un de prudent, qui ait la force, qui ait la justice et qui ait la tempérance. Donc, il faut bien vous dire, j'étais 7 ans dans un séminaire, ici, monsieur l'abbé Troyadec vous en dira bien, ça fait 20 ans qu'il est là, et c'est le spécialiste, c'est lui qui vous le dira. Il y a bien des gens qui ont la vocation parce qu'ils ont, cette pureté d'intention, ils viennent vraiment de bonne foi, ces enfants-là, ils veulent vraiment se glorifier Dieu, ils ont le bon sens et le jugement, mais bien souvent ils sont obligés de... Alors ne jugeons pas, hein. Alors, tiens, il est sorti du séminaire, on peut savoir un peu, ça sera vraiment malsain, hein. Et on peut sortir pour des motifs de santé, de famille, etc. Donc surtout, n'allons pas creuser, etc. Mais on peut vous le dire, je sens que trahir aucun secret, qu'il y en a un certain nombre, et c'est... Eh bien, qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les habitudes. Ils n'ont pas les habitudes. C'est pas parce que je vais être ordonné prêtre, vous voyez, que ça va me dispenser d'acquérir les vertus. Je ne vais pas pouvoir rester au séminaire, je ne vais pas pouvoir rester au monastère parce que j'ai eu une mauvaise éducation où je n'ai pas su entretenir la bonne éducation reçue de mes parents. Et puis, vous voyez ce que je viens de vous dire, vous voyez, la facilité à pratiquer les vertus, l'efficacité, etc., ça suppose que j'ai vraiment les vertus. Mais celui qui n'a pas acquis les vertus, eh bien, il va recevoir les dons du Saint-Esprit par le sacrement de confirmation. Mais ils vont être en suspens, ils vont être en stand-by, ils vont être inefficaces. Les dons du Saint-Esprit vont me donner, vous voyez, cette aisance, cette saveur, cette efficacité, dans la mesure où, effectivement, je me suis donné la peine d'acquérir ces vertus. Mais quelqu'un qui n'a pas ces vertus, ou qui lui manque une autre, eh bien, il est dans cette case-là. Et le don du Saint-Esprit ne va pas corriger ça. Un gars de 25 ans, vous voyez, qui rentre au séminaire, etc., et qui a une certaine inconscience, une certaine passivité, qui a gardé un certain individualisme et sensualisme, c'est pas vrai que les dons du Saint-Esprit vont corriger ça. Il l'est, et il suffit qu'il y en ait un. Vous voyez, que je sois vraiment un peu un gosse, vous voyez, par rapport à ma naïveté, par rapport à ma vulnérabilité, par rapport à ma brusquerie ou par rapport à ma gourmandise, je vais te dégager. Au bout d'un certain temps, tu dégages. Rien à faire. Vous voyez comme c'est important. Vous voyez, quelqu'un qui s'est enivré, c'est quelqu'un qui s'enivre, c'est un alcoolique. Il est là-dedans. C'est un enfant. Le gars, il sait pas, il n'a pas la maîtrise de soi. Il est. Peut-être que par ailleurs, ça peut être un très bon chef d'entreprise, etc. Mais par rapport à ça, par rapport au sensualisme, c'est un gosse. Eh bien, un jour, il va se casser la figure, il n'y a rien à faire. Donc, vous voyez, quelqu'un qui est alcoolique et qui va se confesser, la confession, bien sûr, va lui pardonner son péché. Mais tant qu'il n'aura pas réappris à se maîtriser, etc., eh bien, il va s'enivrer tant que tant. Il n'y a rien à faire. Il peut se confesser autant de fois qu'il voudra, tant qu'il n'aura pas fait cet effort, vous voyez, de sobriété, de maîtrise de soi, de retenue, il pourra se confesser, communier des centaines de fois, il restera un gosse avec une vulnérabilité dramatique. Donc vous voyez que c'est tellement important. Et vous voyez qu'il y a des gens, qui n'ont aucune religion et qui sont des très bons éducateurs. Vous voyez, des gens qui sont prudents, vous voyez, qui ont vraiment du courage, et qui ont le sens de la justice, et qui ont le sens, vous voyez, de la tempérance, etc. Ils n'ont pourtant aucune religion, et ils nous donnent des leçons, ces gars-là. Vous voyez, ils ont vraiment... C'est des gens qui n'ont pas, vous voyez, ces défaillances et ces fragilités de l'enfance. Et pourtant, ils n'ont pas de religion. Donc la religion, vous voyez, qui est plaquée là-dessus, ça va servir à rien. À rien. Donc il y a des gens, vous voyez, qui tout d'un coup défroquent parce qu'ils étaient religieux, etc., ou ils étaient mariés, ils en vont tout promener, etc. Vous pouvez être sûr, ne faites pas l'examen de conscience à leur place, mais qu'il y a toujours une cause, et il y a toujours un truc où ils étaient restés dans l'enfantillage. Il y a quelque chose de fondamental dans leur personnalité qui n'existait pas. Et ils ont beau faire des prières tant qu'ils veulent, ouais, les dons du Saint-Esprit sont inefficaces. Le don du Saint-Esprit perfectionne ça. Mais le don du Saint-Esprit ne corrige pas ça. Si je veux passer de ça à là, il n'y a rien à faire, c'est par l'effort et la répétition. C'est pas en allant me faire confirmer, en allant me confesser, etc. Ça va aider, bien sûr, mais jamais la confession. Alors voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, vous voyez, qui vont se confesser et qui communient et qui se découragent. Parce qu'ils disent, comment ça se fait? J'ai vraiment tout dit mes péchés, etc. Et comment ça se fait que d'une confession à l'autre, j'arrive pas, vous voyez, à me corriger de ma faiblesse, vous voyez, de mon incapacité, de ma brusquerie, de ma gourmandise, comment ça se fait? Mais monsieur, le sacrement ne vous dispense pas d'acquérir la vertu, il va falloir faire effort. En même temps que vous recevez les sacrements, il va falloir, vous voyez, réacquérir ses produire ses efforts. Et là, vous allez vous en sortir. Là, la grâce du sacrement, comme les dons, vous voyez, la grâce du sacrement ne dispensera jamais, vous voyez, de ses efforts. Celui qui est dans cet état-là et qui reçoit les sacrements sans chercher, vous voyez, à acquérir ses vertus, il va toujours rester là-dedans. Les sacrements seront inefficaces. Rien à faire. Alors ça, c'est fondamental. Ça explique beaucoup de choses. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est raisonnable. Ça, c'est très logique. C'est très logique. Et vous voyez, ça met à la fois c'est exigeant. Ouais, parce que, vous voyez, il y a des gens qui reçoivent les sacrements comme ils vont chez un voyant, un médium, quoi. Ouais, j'ai un problème, là. Alors, tu me donnes le fric, le gars. Et, alors, le gars rentre dans les transes, etc. Ça y est, mon gars, t'es guéri. Ouais. Il n'a rien fait, il a simplement donné son fric. Et voilà. Et il y a des gens qui demandent, je reçois un sacrement, pouf, ouais, le problème résout. Ma cache ! Ça marche pas comme ça. La religion, c'est pas de la foutaise, hein. Et c'est pas de la magouille. C'est très logique. C'est très satisfaisant, ça. C'est très satisfaisant. Ouais. On part de là, on doit arriver là, mais sans oublier le passage obligé. Et ça, il n'y a rien à faire. Personne ne va vous dispenser de ça. Ouais. Alors pour vous, c'est fondamental. Vous voyez, si vous avez des enfants, vous voyez, que vous laissez par bonasserie, par faiblesse, dans une certaine naïveté, dans une certaine vulnérabilité, vous voyez, dans une certaine avidité, une certaine impulsivité, ils n'arriveront à rien. Même s'ils ont des très bons diplômes, des très bonnes qualifications, un jour ou l'autre, ils se casseront la figure. Vous leur avez laissé une faiblesse dramatique, mortelle, mortelle. Ils ne sont pas passés de là à là. Vous ne leur avez pas appris, vous voyez, le sens de l'effort, vous voyez, et d'acquérir les vertus. Ce n'est pas d'aller leur demander de faire des pèlerinages, d'aller se confesser, etc., qui va remplacer ce que vous n'avez pas fait en éducation. Il n'y a rien à faire. Ouais. Alors, vous voyez, ça, tout ce que je viens de vous dire, vous voyez, c'est mon comportement par rapport aux créatures, vous voyez, par rapport à moi-même, par rapport au prochain et par rapport à tout le reste. Voilà le plan de Dieu. Ouais. Comment les dons viennent couronner, achever ce travail que je dois faire sur moi-même, ouais. À l'aide de mes parents, avec mes éducateurs, avec mon directeur de conscience, etc. Comment je dois me prendre en main, ouais, mais... Alors maintenant, passons par rapport à Dieu. Ah, vous en allez avoir pour votre argent, hein. Alors, là, ça marche complètement différemment. Ouais, le processus est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'à la différence, vous voyez, de ce que je viens de vous dire, mais Dieu est mon Père. Et au dès départ, le bon Dieu va me donner des vertus infuses. Donc, vous voyez, là, par rapport à ma vie d'intimité avec le bon Dieu, il n'y a plus du tout... Il n'y a plus du tout, vous voyez, cet état initial défavorable avec ses dents, ses fragilités, etc. C'est l'inverse. Par rapport à Dieu, je pars avec un potentiel extrêmement positif. Dès que je suis baptisé, le bon Dieu me donne des vertus infuses. Vous voyez, donc il me donne des capacités, au lieu de faiblesse, de fragilité, le bon Dieu me donne. Vous voyez, attention, c'est en germe. C'est-à-dire que ces vertus que le bon Dieu me donne, il va falloir les développer, il va falloir les travailler, etc. Mais vous voyez, je n'ai pas à réformer, vous voyez, des inclinations tordues. Alors la foi, donc vous voyez, ces vertus infuses, elles sont en germe et ensuite elles sont invérifiables. C'est-à-dire, voyez, quand le bon Dieu me donne la foi, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la révélation des mystères. Mais est-ce que je crois vraiment les mystères? Je ne le saurai jamais. Je ne sais pas maintenant et je ne saurai jamais. Vous non plus. C'est ça qui est difficile. Le bon Dieu me donne des vertus infuses qui sont surnaturelles, c'est-à-dire elles ne sont pas palpables. Oui. Quelqu'un, vous voyez, quelqu'un qui a de la prudence, de la force, de la justice, etc., c'est des vertus acquises que je peux vérifier. Je me rends compte que j'arrive de plus en plus à avoir du discernement, vous voyez, avoir l'esprit de décision, je sens que ça progresse en moi. C'est palpable, c'est vérifiable, parce que c'est des vertus acquises. C'est moi-même qui gère l'affaire. Tandis que ces vertus infuses, elles sont surnaturelles et elles sont invérifiables. Je ne pourrais jamais savoir si j'ai vraiment l'espérance, si j'ai vraiment la charité. C'est quelque chose qui ne se mesure pas. Alors ça, c'est difficile. C'est difficile. Oui, le bon Dieu me donne des dons exceptionnellement riches, mais je vais devoir les développer, mais sans savoir s'ils existent vraiment chez moi et à quel degré ils sont. Ça, c'est très difficile. Alors, pourquoi ? Donc, je vous explique un petit peu. Donc, par rapport à la foi, le bon Dieu va me révéler des mystères, mais vous voyez, on a une impression de... En même temps que le bon Dieu se révèle à moi, j'ai une impression de dépassement. Je sens que ces mystères, c'est des vérités que je n'arrive pas du tout, vous voyez, à vérifier, etc. En même temps, ça me met dans un certain... je suis décontenancé, quoi. Je suis mal à l'aise par rapport à ces vérités. Mystère de la Sainte Trinité, mystère de la rédemption, mystère... Je crois, mais je n'arrive pas à faire des rapports avec mes autres connaissances, etc. Je sens que je suis complètement dépassé par... C'est une lumière aveuglante, quoi. C'est une lumière, vraiment. La foi, ce n'est pas des ténèbres, c'est une lumière. Mais c'est trop fort pour mes yeux qui captent, quoi. Donc en même temps que le bon Dieu me fait une faveur exceptionnelle de me réserver les mystères, en même temps, il me met dans le malaise, parce que ces vérités-là, je ne les saisis pas. Ouais. Ensuite, il y a l'espérance. Le bon Dieu me donne des perspectives, il m'annonce un bonheur incroyable par les béatitudes, mais c'est un bonheur immatériel. Si vous lisez l'Évangile, où il décrit le bonheur du ciel, pour moi, c'est irréel, c'est la bulle, quoi. C'est pas ce que c'est que le ciel. C'est vrai. Enfin, vous savez. Et en plus, donc, il y a une certaine incorporealité, il y a une certaine immatérialité. J'arrive pas à vraiment me donner une idée du ciel qui correspond à mes aspirations de bonheur, etc. Et en même temps, le bon Dieu me dit, faites-vous des trésors éternels. Oui, le royaume des cieux est semblable à celui qui a trouvé un trésor et qui vend tout pour acquérir ce trésor. Alors en même temps, oui, voilà la difficulté de l'espérance. L'espérance me fait attendre un bonheur. Je n'arrive pas, voyez, à me matérialiser, à réaliser, etc. Et en même temps, il faut renoncer à tout pour l'avoir. Ça devient un peu compliqué, quoi. C'est un peu cher payé, hein. Il faut que je tende à un bonheur que je ne peux pas vérifier. Et en même temps, il faut me dégager de tout. C'est vraiment le truc, c'est comme celui qui vous monte dans un avion et va dire, voilà, alors vous sautez, puis le parachute, c'est en cours de route. Ah, d'accord. Vous sautez dans le vide, puis vous aurez le parachute au bout d'un moment. Ah, ouais. Alors, voilà, c'est le renoncement, si vous voulez. Le bonheur, ça va venir, écoute. Et puis la charité. La charité, c'est l'ennoblissement de... Ça me divinise, la charité. Dieu est charité. Le bon Dieu me donne dès le départ, dès le baptême, la charité, je suis divinisé. Mais attention, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors le prix de la divinisation, c'est complètement m'effacer, quoi. Je ne deviens plus rien, hein, je suis transformé. Et puis surtout, il faut me purifier. Je ne peux pas être divinisé, eh bien, sans me purifier de certaines mauvaises habitudes, etc. Là aussi, hein, c'est cher à payer. Hein. Vous avez senti, vous, votre enfant, quand il est baptisé, il est divinisé. Vous avez vu quelque chose qui se passe au baptême. Alors ça, c'est difficile. Eh bien là, les dons. Voilà, les dons du Saint-Esprit vont justement m'aider à épanouir ce qui est en germe. Ça va se développer d'une manière magnifique. Et ce qui est invérifiable, bien, je vais en trouver l'agrément. Je vais pouvoir avoir des garanties, sans jamais comprendre les mystères, sans jamais posséder le bonheur du ciel, et sans jamais vérifier que je suis divinisé, les dons du Saint-Esprit vont vraiment complètement transformer ça. Elles vont m'enlever voyez, ce décontentement, cette impression de dépassement, ce malaise, elles vont me donner au contraire. Vous voyez, le don d'intelligence va me donner une pénétration des mystères. Même si on n'arrive pas à comprendre les mystères, on arrive quand même à les pénétrer avec eux. On a le sens de l'Écriture sainte. Ouais. Et du coup, vous voyez, le don d'intelligence va me donner cette capacité d'appliquer les vérités de la foi dans ma vie quotidienne. C'est merveilleux. Ce que je crois, et pourtant que je ne comprends pas, je suis capable, vous voyez, de le mettre en application dans ma vie chrétienne. Je sens que ma vie de foi, vous voyez, c'est non seulement croire des vérités, mais les appliquer dans la vie chrétienne. Alors, c'est merveilleux. Le don, vous voyez, va complètement, vous voyez, le don de science, le don de science. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas ce don, les créatures, il admire les créatures, bien sûr. Mais celui qui a le don de science, il voit à travers les créatures une sorte de miroir où à travers la beauté des créatures, il voit le reflet des perfections de Dieu. Alors c'est enthousiasmant. Vous voyez, derrière les créatures, il voit. Vous voyez, c'est comme celui qui regarde un tableau et à travers le tableau, il voit le peintre. Le peintre avec ses qualifications, avec ses goûts, avec son génie, etc. C'est merveilleux ça, ouais, le don de science. Et puis, le don de science me donne la certitude des vérités de foi par intuition. Je n'ai pas besoin qu'un théologien m'explique, je n'ai pas besoin de démonstration. J'ai une sorte de certitude, une sorte d'évidence que les vérités c'est ça. Je ne peux pas en douter. Pour moi, même si je ne suis pas, je ne peux pas justifier ma foi. Pour moi, c'est évident, je le crois beaucoup plus que j'existe, que je suis fils de mon père et de ma mère, etc. J'ai une évidence. C'est merveilleux. Vous voyez, les dons vont perfectionner, vont me donner avec Dieu, mon père, des relations complètement différentes. Le don de crainte, ouais, par rapport à l'espérance, ouais, le don de crainte va me donner une aspiration vers le ciel incroyable, un désir du ciel incroyable. Donc, l'espérance, vous voyez, qui me met dans un certain malaise, vous voyez, de voir que ce bonheur du ciel, il est matériel, eh bien, par le don de crainte, je vais avoir vraiment, même si je ne peux pas me donner des images satisfaisantes, vous voyez, du bonheur du ciel, j'ai un désir qui me dévore, ouais, du ciel. Et puis, le don de crainte me donne une révérence filiale. J'aime tellement le bonheur. Ce que je vous disais, vous voyez, si une maman... Je vous dis, je ne me prends pas du tout pour un cas isolé. Ouais, une maman est capable de me détourner du mal simplement par l'amour. Et là, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de ruse. Mon père, je savais comment enrôler. Ouais, bon, je ramassais de bonnes raclées. Ma mère, j'essayais même pas. Ouais, je savais que la peine que j'allais avoir de l'avoir pleuré, vous voyez, rendait ridicule le plaisir que j'avais de faire une sottise. Donc, il valait mieux pas que la fasse. Ouais. Ça, eh bien, c'est ça la révérence finale. Si on est capable, et si le bon Dieu est capable de nous inspirer ça pour nos parents, à plus forte raison, ouais, la révérence filiale. Donc vous voyez, c'est complètement différent, ouais, de la crainte, c'est aussi le don de crainte ici. Vous voyez, le don de crainte ici, par rapport au plaisir, etc., ça me donne une sorte, vous voyez, d'indifférence, je ne suis même pas tenté. Le don de crainte par rapport à l'espérance, c'est beaucoup plus. J'aime tellement le bon Dieu que j'imagine même pas la possibilité de lui faire de la peine et de l'offenser. Ça ne me viendrait même pas à l'idée. Ouais. Et puis enfin, le don de sagesse. Ouais. Donc la charité, c'est être divinisé, mais en s'effaçant et en se purifiant. Alors, comment le don de sagesse va me donner une connaissance expérimentale de Dieu, savoureuse de Dieu. Je suis en présence de Dieu, je me sens complètement possédé par le bon Dieu. Quand je me mets en présence de Dieu, je suis un autre. Ouais. Et puis, je sens une facilité à mettre mes actes personnels en conformité avec les perfections divines. Jésus qui me dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Avec le don de sagesse, ça devient possible. Je sens vraiment cette attirance, cette capacité. Et je vous assure, pour nous prêtres, c'est merveilleux de voir la conversion. Vous connaissez ce livre, je me suis converti à Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est merveilleux de voir des gens qui étaient complètement ignorants de la religion, égarés dans des sectes, etc., puis qui découvrent un jour la religion catholique, et des gens qui menaient une vie quand même un peu désordonnée. Ils régularisent tout ça, ça demande du temps, parce que justement, même s'ils sont touchés de la grâce, ils vont devoir passer par là. Et ils le montrent bien dans leur livre. Ouais. C'est pas parce qu'ils ont la grâce de la conversion, ils vont avoir tout un parcours pour réacquérir ces vertus. Et souvent, souvent, c'est des gens aussi qui, bien que leurs parents ne leur aient pas transmis la foi, c'est souvent des gens qui avaient une certaine droiture de vie, une honnêteté de vie. Ils avaient une famille qui tenait la route. Même si c'était des gens pas religieux, athées, c'est des gens qui avaient reçu une très bonne éducation. Donc le jour où ils vont être touchés de la grâce de Dieu, ça va se faire comme rien. Vous voyez, comme vous mettez une flamme au contact de l'essence. Ouais. Alors ces gens-là se convertissent et nous donnent de grandes leçons. Parce que justement, les dons du Saint-Esprit vont produire, une fois qu'ils vont recevoir la grâce du baptême, etc., ça va être merveilleux parce qu'ils ont, avant même d'être convertis, et ils avaient, vous voyez, par l'éducation, par l'effort personnel, etc., ils s'étaient sortis de cela. En dehors de la religion, ils avaient réussi à avoir une vie droite, etc. Le jour où ils découvrent la religion, alors tout est efficace du premier coup. Les dons du Saint-Esprit, tout de suite, vous voyez, agissent parce que justement, ouais, il y a ce terreau, il y a ce terrain extrêmement favorable. Ouais. Alors, oui, notre Seigneur Jésus-Christ dit, si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Les élus, c'est ceux qui leur ressemblent. Attention, il faut expliquer ça. Est-ce que, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit, redevenez comme des petits enfants, ça ne veut pas dire revenir comme ça, hein? Ça ne veut pas dire ça. Il ne veut pas dire ça, sûrement pas. Alors, ne nous trompons pas. Bien sûr, c'est vraiment de la bêtise et de la crétinerie de penser que pour aller dans le royaume des cieux, je dois retomber dans l'enfantillage et la puérilité. Ouais, dans le caprice, la fantaisie, n'importe quoi. Ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, si vous ne devenez... Eh bien, justement, vous voyez, vos enfants qui sont puants, qui sont bruyants et qui sont onéreux, eh bien, en même temps, ils ont des perfections merveilleuses. Ouais. L'enfant est un modèle, un idéal, parce que justement, vous voyez, quelles sont les qualités de l'enfant? Ouais. Les qualités de l'enfant, c'est d'abord l'émerveillement. L'enfant, il admire tout. Tout ce qu'il voit. Il écarquille les yeux et il n'en finit plus, quoi. Pour lui, tout est merveilleux. Pourquoi? Vous voyez, l'enfant, il est curieux, il vous demande tout, il a de l'intérêt, il recherche, il cherche à savoir. Et en même temps, tout ce que ses parents lui disent, il le reçoit avec une grande simplicité, avec une grande candeur. L'enfant adhère à tout ce que vous lui dites. Il est convaincu. Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, vous voyez, par la foi. Les dons du Saint-Esprit nous permettent d'imiter cette qualité merveilleuse de l'enfant. Oui, à travers la révélation de Dieu, oui, je dois vraiment la vie de foi, c'est ça. C'est vivre dans l'admiration, dans l'émerveillement. Tout ce que le bon Dieu me donne, je le reçois avec intérêt. Je recherche, oui, la révélation de Dieu. Je la reçois avec simplicité de cœur, avec candeur. J'y adhère de tout mon cœur, oui, et je suis convaincu. Qu'est-ce qui s'oppose à l'enfance spirituelle? Eh bien, c'est l'indifférence. Ça ne m'intéresse pas. Oui, la religion ne m'intéresse pas. Je suis incrédule, j'ai le préjugé défavorable. Le scepticisme, le doute, tout ça, oui. Pourquoi? Oui, je vous ai dit, combien c'est malheureux, oui, combien des gens, oui, qui peuvent avoir une très grande droiture morale, vous disent, j'ai pas la foi, et je veux pas avoir la foi. D'où vient l'obstacle? Eh bien parce que justement, ils n'ont pas l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance avec... Ils n'ont pas cet intérêt, ils n'étudient pas suffisamment la religion. Ils ne recherchent pas vraiment ce que c'est que l'amour de Dieu. Ils n'ont pas cette simplicité, ils doutent, ils n'ont pas cette candeur. Ils ne cherchent pas à adhérer à la, vous voyez, à la vérité, à s'en convaincre. Alors ils restent dans mon... Combien c'est malheureux. L'esprit d'enfant. Alors voilà en quoi vos enfants, effectivement, méritent votre attention, votre admiration, votre amour. En dépassant les apparences, les désagréments qu'ils peuvent avoir par ailleurs, un enfant, c'est une merveille, parce que justement, il nous donne la leçon. Ouais. La vraie foi, vous voyez, ce don d'intelligence, ce don de science, eh bien, il nous fait le meilleur exemple, le meilleur modèle idéal qu'on a. Ben, vous l'avez dans vos enfants, vos petits bébés qui sont baptisés. Ensuite, un enfant, vous voyez bien, il est complètement abandonné à vous. Il est complètement abandonné. C'est-à-dire, vous le sentez, il a plein d'assurance. Quand il vous demande quelque chose, il le fait avec audace, avec assurance, il n'hésite pas. Oui. Et il n'hésite pas à vous demander sans cesse. Oui. Il est confiant, vous voyez, que vous allez lui donner quelque chose. Et il est serein, il est tranquille, l'enfant. Oui. L'enfant, ce que vous lui donnez, il est content, il est satisfait de ce que vous lui donnez. Et il éprouve une certaine plénitude. Ben, c'est ça l'espérance. Oui. La plus belle espérance, on l'a dans l'enfant, oui, dans son comportement avec ses parents. Oui. Dans l'abandon, c'est ça la véritable espérance. L'enfant spirituel, c'est ça. Et vous l'avez devant les yeux. Oui. Vous n'avez pas tellement à lire du catéchisme, la vie des saints, etc. Notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, prend un enfant devant lui et il dit aux apôtres, regardez, il faut imiter cet enfant. Ouais. Eh bien, retenez ça. Vous qui êtes mère de famille, vous n'avez pas à courir les cercles d'études, etc. Voyez, si vraiment vous savez admirer dans vos enfants ces qualités que le bon Dieu a mis dans tout enfant, ben vous vous sanctifiez. Ne cherchez pas d'autres modèles, ne cherchez pas d'autres règles de vie. C'est ça. Si vous devenez comme des petits enfants. Ensuite, la fusion. Un petit enfant, il fait qu'un avec sa maman. C'est merveilleux, dans le sein de sa mère pendant 9 mois. Il est branché, là. Hein, ouais. Il n'a plus aucun souci. Et en plus, ouais, alors c'est liquide ammoniatique. J'avais dit ammoniatique. Alors, donc, je vais prendre l'ammoniaque. Hein. Et il est là, il est tranquille. C'est merveilleux, il a rien, il est branché, tout vient, l'air, l'eau, etc., le sang, la nourriture, la bouffe, il a rien à faire. Ouais. C'est formidable. Ouais, la fusion, ça fait qu'un être. Hein, l'air que respire la mère, c'est l'air de l'enfant, la nourriture, etc., ça fait qu'un. Ben, c'est ça la charité. Ouais. L'enfant ressemble à ses parents, et en plus il les imite. Tout ce que vous faites, l'enfant le reproduit. Ben, c'est ça la charité. Ouais. L'enfant, en plus, ouais, la charité m'oblige à me purifier. Mais l'enfant, il est innocent, il est vierge. L'enfant, il est innocent, il n'a pas à se purifier. Il est vierge, l'enfant, il est innocent. Il n'a pas de pensée perverse, il n'a pas de... Oui. Et l'enfant, il est identifié à ses parents. Oui, il n'imagine pas pouvoir mener une vie en dehors de cette intimité, de cette fusion. Ben, c'est ça, la charité. Voilà, on imite un enfant. Oui. Alors... Je suis passé de là à là sans passer. Oui. Qu'est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce qui s'oppose à l'espérance? Eh bien, c'est justement oui, la méfiance, oui, le désespoir, la peur, l'inquiétude. Ça, un enfant n'est pas capable de ça. Oui. Ça, c'est pas l'enfant spirituel. Et puis, qu'est-ce qui s'oppose à la charité? Oui. Eh bien, c'est la tiédeur. Un enfant, il n'est jamais tiède. Il aime vraiment ses parents de tout son cœur. Oui, c'est très beau. Quand vous envoyez un enfant, vous lui offrez un très beau cadeau à Noël, mais vraiment un truc où il est complètement... Et vous le voyez complètement absorbé. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous avez du linge. Alors, vous en profitez, vous partez sur la pointe des pieds pour étendre votre linge. Et l'enfant, très vite, il regarde si vous êtes là. Et il se met à chouiner! Insupportable! Le truc, il dégage, il n'en veut plus! Parce que vous n'êtes plus là! Ben, c'est ça, la charité. La charité, c'est ça! C'est la présence du bon Dieu. Tout le reste, ça m'est indifférent. Faut qu'elle revienne, ma mère. Ouais, la charité, c'est de ne pas supporter d'être séparé du bon Dieu. Bah, à partir de là, on ne commet plus de péché. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'oppose à la charité? Eh bien, c'est la tiédeur, c'est la désobéissance, c'est partager son cœur, c'est diviser son cœur. Bien sûr. Ouais, j'aime le bon Dieu, mais en même temps, j'aime la bouteille, j'aime la copine. Bon, voilà. Oui, je pense que c'est un plan... Alors, aidez-moi, hein. C'est un plan très personnel. Dire, non, là, vous êtes curé, on voit bien que j'ai mis d'enfant. Hein. Ben, vraiment, c'est mieux. N'hésitez pas, hein, je suis tout à fait ouvert. Hein. Bon, je suis susceptible, alors prenez-y un petit peu des gants, mais on va y arriver. Hein. On va y arriver. Alors, et ça, c'est très important, vous voyez. Pour passer de là à là... Ben, c'est l'Esprit Saint. Et vous voyez, dans les oraisons, vous voyez, quand on célèbre un grand saint, par exemple, je vous prends, voilà. Saint Josaphat, le 14 novembre. Saint, nous vous prions, Seigneur, suscitez dans votre Église l'Esprit qui remplissait votre bienheureux martyr, qui porta à donner sa vie pour ses brebis, afin que ce même Esprit, qu'étant par l'intercession animé, fortifié, nous, mais par ce même Esprit, nous ne craignons point de sacrifier notre vie pour nos frères. Vous voyez, l'héroïsme a donné sa vie pour son frère. Comment Saint Josaphat a réussi? Eh bien, parce qu'il a eu l'Esprit Saint. Il a eu l'Esprit Saint. Alors on dit au bon Dieu, ben voilà, lui il est devenu martyr parce que vous lui avez donné votre esprit. avec ses noms, etc. Nous, on n'est pas vos enfants de deuxième classe. Donnez-nous le même esprit. Hein? Voilà. Et puis, vous voyez, c'est merveilleux. Vous voyez, quand vous lisez le Veni Sancte Spiritus, vous voyez, dans le Veni Sancte Spiritus, ben, qu'est-ce que vous disiez je vous dis pardon. Lavez nos souillures, arrosez nos sécheresses, guérissez nos blessures, pillez ce qui est trop rigide, etc. Donc, vous voyez, on demande au bon Dieu parce que ça reste toujours un peu, même si on a su faire ce bon passage, il y a toujours ces retours possibles. Alors, on demande au Saint-Esprit de vraiment, non seulement nous conserver ça, mais de l'améliorer pour qu'il n'y ait jamais de possibilité. Quand je fais la prière au don du Saint-Esprit, c'est ça que je demande. Vous voyez, que ces dons perfectionnent ces vertus acquises et ne me donnent jamais le malheur, vous voyez, par négligence, etc., de les perdre au point de retomber là-dedans. Alors voilà, il me semble, vous voyez, que ça vous donne une idée, vous voyez, de la vie chrétienne qui est, voilà, qui fait ce lien, vous voyez, entre ma vie personnelle, ma vie privée, ma vie en général, et puis ma vie chrétienne. Voilà, donc on va aller, si vous voulez bien.